toutes et à tous, bienvenue sur cette émission, l'instant Théovie. Je suis le pasteur Thibaut de la Ruelle. Je rappelle que le but de cette émission, l'instant Théovie, est de faire connaître ce service Théovie, qui est un service gratuit, un service sur Internet, l'adresse théovie.org, et qui propose de cheminer à travers des textes bibliques, des textes théologiques, de manière à appréhender les thèmes qui sont proposés à travers ces textes. Je rappelle que ce service propose des parcours qui peuvent être assez généraux pour une initiation. Par exemple, nous avons des parcours qui se nomment découverte du protestantisme, ou encore pour une première approche de la Bible, donc qui sont plutôt adaptés pour une initiation, ou des parcours qui sont un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus précis, comme par exemple ce parcours qui s'intitule D'où vient le mal? Interroger les réponses, ou encore La laïcité est-elle contre les religions? Alors ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ces parcours théoriques qui sont encore une fois assez différents, des parcours qui sont encore une fois plus bibliques, des parcours qui sont plus théologiques, des parcours qui partent directement de textes bibliques, ou qui partent de textes d'auteurs, de textes de théologiens, de philosophes, éventuellement même des textes littéraires, eh bien chacun des parcours disponibles sur le site, eh bien, suit la même méthodologie. Toutes les étapes, en effet, partent d'un texte, et c'est à partir de ce texte que des explications vont être données en cliquant sur des mots qui sont en surbrillance de ce texte. Eh bien, c'est justement en cheminant à travers les explications données que le parcours va se déployer, va se proposer à l'utilisateur. Et je crois que c'est pas négligeable, c'est pas inutile de souligner que ce choix de partir d'un texte n'est pas simplement un choix arbitraire ou un choix méthodologique, mais que c'est aussi un choix théologique. En effet, comme pour les Écritures qui sont considérées comme le fondement, qui font autorité en matière de foi pour la réforme, eh bien, il s'agit là aussi de partir de textes. Alors, bien entendu, quand c'est le texte biblique, c'est encore plus fondamental, mais aussi de partir de textes, même si ce n'est pas que des textes bibliques, et finalement d'apprendre à l'utilisateur d'apprendre à les lire, et ainsi de lui permettre, en lui donnant les clés de lecture, lui permettre de cheminer à travers ce que les textes peuvent lui dire à lui. C'est donc un cheminement qui reste donc individuel, puisque, encore une fois, c'est la lecture que chacun, chacune va faire qui est valorisée. Et donc, on ne dit pas à l'avance ce qu'il faut lire, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut croire, mais encore une fois, on donne les moyens pour apprendre à lire, pour que chacune et chacun, eh bien, fasse son propre cheminement personnel, que ce soit évidemment un cheminement intellectuel, mais aussi un cheminement existentiel et éventuellement un cheminement spirituel. En effet, Théovie s'adresse bien entendu à des personnes qui croient, mais s'adresse aussi, pourquoi pas, à des personnes qui ne croient pas. Et donc, il faut rappeler que donc chaque étape, les étapes qui constituent les parcours, hein, il y a donc pour chaque parcours un certain nombre d'étapes, eh bien, systématiquement, nous partons d'un texte biblique ou d'un texte théologique, et que ce soit l'utilisateur qui, en cheminant à travers ce texte, eh bien, fasse sa propre lecture. Alors pour aujourd'hui, puisque nous sommes entrés dans la période de Noël, il me semblait intéressant, il me semblait judicieux de remettre en avant une étape qui s'intitule Noël. Donc il n'y a pas d'originalité dans ce choix, et que l'on retrouve dans le parcours fête chrétienne qui est rangé dans les parcours éthiques. Donc, si vous allez sur le site donc théovie.org, vous verrez que sur la page d'accueil, il y a une catégorie des parcours éthiques qui se trouve en bas au centre donc de cette page d'accueil. Et donc dans ces parcours éthiques, eh bien vous trouvez un parcours fête chrétienne. Et dans ce parcours fête chrétienne, eh bien vous avez une étape qui s'intitule Noël. Et donc c'est un peu cette étape que je vais mettre en avant et que je vais reproposer, ouvrir ou de redécouvrir. Alors, comme je le disais, dans cette étape, si nous cliquons et que nous allons sur cette étape, eh bien nous allons trouver évidemment un texte. C'est un texte ici qui n'est donc pas un texte biblique. C'est un texte qui date de 2004, qui a donc 20 ans. C'est un texte assez court, et donc je le lis. Aujourd'hui, Noël est devenu une fête de la lumière et de la famille. Cette fête a-t-elle perdu son caractère chrétien? Non, pas forcément, car le message de l'Évangile affirme que dans la vie de chacun de nous, il y a la présence éclairante et mobilisatrice de Dieu. Cette même présence qui existait en Jésus, comme le disent à leur manière les récits de sa naissance. Voilà, donc vous voyez, c'est un texte qui n'est pas très long, qui n'est pas très compliqué non plus à comprendre, même si, bien entendu, avec la question qu'il pose et la démonstration qu'il propose, eh bien, il y aurait rapidement sujet à discussion, surtout que, encore une fois, 20 ans plus tard, les choses se sont peut-être encore plus affirmées dans un sens ou comme dans l'autre. Alors, ce que je propose, c'est que, et c'est ce qui est proposé aussi pour chaque étape des parcours de Théovie, eh bien, c'est une fois qu'on a lu le texte, une fois qu'on l'a lu de manière individuelle derrière son écran, ou qu'on l'a lu de manière collective à travers un travail de groupe, eh bien, c'est avant de se jeter ou de se lancer dans l'étude du texte. Eh bien, c'est de prendre un temps pour prendre de la distance par rapport à ce texte. Ne pas tout de suite se jeter dans la discussion, dans le travail et vouloir répondre, mais peut-être prendre de la distance par rapport à ce texte. Il faut dire en effet que avant même de lire un texte, on a toujours une pré-compréhension en nous. Alors là, sur un texte comme celui-ci, pas forcément, parce que bon, il y a peu de chances qu'on l'ait lu en préalable. Hein. C'est pas un texte connu, c'est pas un texte sur lequel, bien sûr, on a des chances de retomber. Mais quand c'est un texte biblique ou même un texte théologique ou philosophique qui est beaucoup plus connu, bon, effectivement, on va avoir tendance en lisant un tel texte, eh bien, à retrouver des choses que on croit savoir, relire des choses qu'on croit qu'on avait déjà trouvées, etc., etc. Et donc lire un texte, c'est toujours évidemment soit d'un côté avoir l'impression qu'on sait déjà ce que le texte va nous dire. Et donc, si on a cette impression-là, le danger, c'est que, évidemment, en le relisant, on voit pas forcément de choses nouvelles. Ou à l'inverse, si le texte, au contraire, est énigmatique pour des raisons de langage ou pour des raisons comment dire, de contenu qui nous sont pas familières, eh bien là, au contraire, le texte peut nous paraître complètement énigmatique, complètement décousu, et donc ne pas donner du tout de cohérence préalable, et donc peut-être ne même pas passer pour un texte, mais plutôt pour une sorte de télégramme avec des morceaux qu'on comprend et puis des morceaux qu'on comprend pas. Voilà, donc quoi qu'il en soit, il est toujours, me semble-t-il, nécessaire, utile de prendre justement de prendre une distance par rapport à la première lecture d'un texte, encore une fois, que ce soit un texte biblique ou un texte philosophique. Alors pour cela, dans les étapes qui sont proposées par Théovie, en général, on trouve un certain nombre de questions qui sont voilà qui sont proposées pour prendre justement pour prendre cette distance. Et donc je crois qu'il est important de justement de laisser un peu remonter à la surface des impressions qu'on aurait, des liens qu'on aurait. Des fois, on fait des associations d'idées. Un texte nous évoque d'autres textes, un texte nous fait penser à d'autres textes, etc., etc. Donc, je crois qu'il faut vraiment laisser remonter un peu toutes ces impressions. Ça contribue à une sorte de, je dirais, de poésie de notre intelligence, de poésie de notre mémoire, poésie de notre existence. Ce qui va remonter en nous, c'est pas simplement des choses intellectuelles, ça peut être aussi des expériences, ça peut être des choses, voilà, qui nous ont constitués. Et donc tout ça, c'est extrêmement important de le faire remonter. Bien sûr, il ne faut pas partir dans toutes les directions, s'égarer sur le chemin des associations infinies, évidemment, parce que sinon on aura du mal à retrouver pied. Mais je crois qu'il est toujours bon de voilà de se laisser de laisser l'esprit, notre esprit, et puis peut-être le Saint-Esprit aussi faire ce travail d'inspiration, en évoquant tout un tas de choses qui sont inspirées par cette première lecture. Et donc avoir un temps de discussion, et puis aussi des émotions, parce que au fond certains textes bibliques, par exemple, peuvent avoir des comment dire des contenus qui nous choquent, qui nous questionnent profondément, qui peuvent même parfois nous culpabiliser. Et donc c'est important de pouvoir laisser remonter ça. C'est important de le verbaliser, c'est important d'en discuter, hein. Des fois on a un peu peur, comme c'est un texte biblique. On n'ose pas trop dire que bah voilà ça nous inquiète, ou on n'est pas d'accord, ou carrément on est même scandalisé, alors qu'on sait très bien qu'il y a quand même des textes qui sont en tout cas dans une première lecture qui peuvent être choquants. Donc c'est le cas pour des gens qui croient, des gens qui considèrent que les Écritures sont source de vie, mais à plus forte raison, c'est le cas pour des gens qui n'ont pas cet attachement à l'Écriture, et qui pourraient, sur certains versets, en les lisant, considérer que c'est complètement excessif, inacceptable, etc., etc. Donc, encore une fois, il est fondamental de laisser une place à toutes ces émotions, à toutes ces impressions, à toutes ces petites interprétations premières, de manière à ce que justement, eh bien, la lecture avec le texte soit pas simplement une lecture qui réduise le texte à un simple message, mais que ce soit vraiment une rencontre existentielle avec notre histoire, avec nos tout ce qui nous constitue dans notre expérience, notre expérience de la vie. Voilà. Donc je vais me prêter moi-même un peu à cet exercice de la réaction personnelle, de laisser venir en moi des souvenirs, des expériences, de manière à justement à un peu à, comment dire, à incarner ce texte et les questions qui posent à partir de nos expériences de Noël. J'ai d'abord, sans raconter ma vie, j'ai toujours été quelqu'un qui pensait être relativement indifférent à la question du calendrier liturgique. Tout en étant pasteur, voilà, j'attachais pas une grande importance aux périodes de fête. Alors, bien entendu, quand on est pasteur, on peut pas y couper, hein. Donc le calendrier liturgique, eh bien, on est bien obligé de le vivre. Mais disons que voilà, j'avais un rapport assez distant à la chose. Et voilà qu'il y a quelques années maintenant, j'ai eu la chance de vivre sur l'île de la Réunion comme pasteur durant 5 ans. Alors, c'est une petite parenthèse pour encourager les gens qui iraient sur l'île de la Réunion d'aller rendre visite à cette église qui reste pour moi une église extrêmement importante, extrêmement intéressante. Voilà, l'église protestante de la Réunion qui se situe à Saint-Denis et également à Saint-Pierre. Voilà. Et donc en vivant à la Réunion, bah, les auditeurs savent sans doute que bah, la Réunion c'est dans l'hémisphère sud, que du coup les saisons sont inversées. Alors bien sûr, quand on est sous les tropiques, bah, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment d'hiver, mais en tout cas, la période de Noël se situe dans l'été austral, et donc il fait encore plus chaud, il fait encore plus humide. Et puis à l'époque, en plus, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, dans cette période de Noël, période de l'Avent, il y avait un peu la tradition, ou en tout cas, on entendait énormément de gens faire exploser des pétards toute la journée. C'est d'ailleurs assez désagréable, je l'avoue. Et donc voilà, donc forcément vivre ce temps de l'Avent, ce temps de Noël de manière beaucoup plus expressif, de plus excessif. Voilà, Noël, ça va être sur la plage, ça va être à l'extérieur, etc., etc. Du coup, même il y a des feux d'artifice qui sont tirés pour le jour de Noël, pour le Nouvel An évidemment, mais même à Noël. Et donc, on est complètement évidemment à l'opposé d'une ambiance d'un Noël tel qu'on peut le vivre dans l'hémisphère nord, dans des régions plus tempérées, où bah là, ouais, c'est le contraire, hein, les journées sont courtes, il va faire froid le soir. Il y a parfois une odeur de feu de cheminée, peut-être de moins en moins aujourd'hui, voilà, mais ce sentiment avec parfois de la neige, bon bref, le Noël un peu calfeutré, donc effectivement avec une dimension familiale, un peu à l'abri, etc., etc. Bon bah voilà, à La Réunion c'est exactement l'opposé. Et je me suis rendu compte que, alors que, bah voilà, quand on vit effectivement comme ça dans un pays qui est complètement différent de sa région d'origine, eh bien, bah, on s'adapte et puis on est plutôt content même de vivre des choses différentes. Et là, je sentais quand même qu'effectivement, Noël, c'était un peu difficile pour moi. Et bah, du coup, fallu un peu de temps pour admettre que, bah, effectivement, finalement, cette fête de Noël, alors même que j'y prêtais pas spécialement attention quand je la vivais, que même, bon, elle était peut-être un peu encombrante avec ses rituels répétitifs, etc., etc., et bien là, pour le coup, elle me manquait particulièrement parce que, encore une fois, bah, celle que j'avais l'occasion de vivre à La Réunion, bah, ressemblait plus à un 14 juillet en plein été qu'effectivement à ce moment un peu de cocon où on est à se protéger de l'extérieur, de l'obscurité, du froid, etc., etc. Et une expérience parmi d'autres pour peut-être recomprendre différemment ce qui peut être vécu lors de fêtes et particulièrement lors d'une fête comme celle de Noël. Et donc, si je dis ça, c'est parce que bah, par rapport à la question qui nous est posée, hein, sur le fait de savoir si c'est une fête de la lumière, de la famille, de la présence, etc., etc., et bien on voit très bien comment, à travers cet exemple-là, eh bien le contexte dans lequel on vit, eh bien peut faire une différence importante, parce que bah, là où on s'attend à avoir une présence lumineuse du Christ, mais comme dans un peu une petite lumière dans la pénombre, ben là on a plutôt des grandes lueurs dans le ciel estival sous les tropiques. Donc évidemment l'impression n'est pas du tout la même. Voilà, donc évidemment ça fait appréhender les choses très différemment, et donc ça montre encore une fois que selon l'expérience qu'on vit, selon l'histoire qu'on a vécue, les références culturelles qu'on a, eh bien les choses ne sont pas du tout vécues de la même manière. Et bien sûr, en disant ça, je rajoute tout de suite, c'est une évidence. Enfin, des fois, les évidences, elles sont tellement évidentes qu'on finit par les oublier, que pour autant, le Noël de la naissance du Christ ne devait peut-être pas ressembler non plus au Noël des tropiques. Enfin, il ressemblait certainement pas à un Noël froid avec la neige, etc., etc., puisque bah, on imagine bien qu'à Bethléem, c'était quand même pas cette situation-là. Voilà. Comme quoi, tout est relatif. Au fond, ce type d'expérience peut nous rappeler, en tout cas, c'est que, eh bien, une fête, c'est toujours une construction. Et donc, si justement, si le lecteur, l'utilisateur de TOI chemine dans les clés de lecture et dans tout ce qui est proposé comme éclaircissement, eh bien, on va se rendre compte qu'effectivement, la fête du 25 décembre, en réalité, donc cette fête qui est la fête de Noël, la fête chrétienne, eh bien, évidemment, prend la place de fêtes qui existaient avant elle, des fêtes qui célébraient des fêtes païennes, évidemment, des fêtes qui célébraient le solstice, donc le moment où finalement le jour décline jusqu'à son maximum, jusqu'à ce que bah, justement il atteigne ce déclin maximum et puis reparte dans l'autre sens, reparte en devenant de plus en plus long au fil des jours. Et bien donc c'est la fête de Noël, encore une fois, prend la place de fête antérieure. Et donc ça explique pourquoi au fond et bien il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans ce type d'événement. Voilà. Et donc c'est pour ça aussi que la question qui est posée sur le fait que est-ce que Noël est encore une fête chrétienne? Alors bien entendu, on a peut-être tendance à nous à penser à la dimension extrêmement commerciale parce que c'est sans doute ça qui choque le plus les personnes qui considèrent que Noël a perdu un peu son âme. Généralement, c'est cet excès, cette abondance d'achats, de cadeaux, du coup de commerce et puis qui va de pair avec beaucoup de gaspillage, le gaspillage bien entendu parfois alimentaire. Mais gaspillage aussi parce que bah, on sait que les cadeaux en plus sont parfois même revendus, etc., etc. Donc ça a sans doute effectivement de ce point de vue-là perdu une certaine dimension. Et donc voilà, mais en même temps ça se comprend puisque effectivement toutes les fêtes eh bien s'appuient sur une dimension sociale. Et donc dans une société comme la nôtre qui est de toute façon une société de la satisfaction des besoins par des objets de consommation, eh bien, bien évidemment, il est quelque part inévitable que ce genre de réflexe, ce genre de pratique, ce genre de style de vie, eh bien, soit mis au centre de manière particulièrement importante lors de célébrations de Noël. Voilà. Donc, il n'y a rien de particulièrement étonnant. Donc, si on trouve cette dimension qui est, encore une fois, qui est bien analysée dans ce qui est proposé du contenu, ce qui est important surtout, c'est de voir aussi que, eh bien, justement, cette fête, si les chrétiens ont substitué à des fêtes païennes autour de la lumière, la fête de Noël, eh bien, c'est pour manifester une conviction théologique importante. Et donc, ça, c'est sans doute là que peut résider la singularité d'un Noël chrétien. Parce que finalement, c'est pas tant la question de la forme que doit prendre Noël pour être ou non une fête chrétienne, mais c'est évidemment beaucoup plus la question de la signification de ce qu'on vient lui mettre qui va faire la différence. Voilà. Et en l'occurrence, donc, si on revient à l'idée de la fête de la lumière, évidemment, on voit tout de suite que c'est assez judicieux que les chrétiens aient choisi enfin, ce moment, puisque la naissance du Christ, qui est la parole qui s'est faite chair, eh bien, coïncide théologiquement, on va dire, avec le fait de cette présence, cette arrivée de la lumière dans le monde. Et cette lumière, en plus, qui ne survient pas de manière, j'irais, brutale, conquérante, toute puissante, mais va venir à travers justement la fragilité, l'humanité d'un nouveau-né, emmailloté en plus comme un petit pauvre dans la mangeoire de l'étable. Donc voilà. Donc on voit bien justement comment il y a une un choix judicieux de dire, bah voilà, la fête de la lumière pour nous, c'est la fête de la parole de Dieu qui se fait chair, qui prend chair à travers ce nourrisson qui est Jésus, Jésus de Nazareth, né dans l'humanité la plus précaire, la plus fragile par cette naissance dans la mangeoire de l'étable. Voilà donc des éléments qu'on peut retrouver dans ce parcours. Il y a des éléments plus liés à la culture, hein, qui rappellent notamment que dans les langues, donc dans les pays européens, on a différentes manières de nommer Noël, puisque nous Noël, ça vient du latin, c'est le jour de la naissance pour le français. Mais par exemple en anglais c'est Christmas, donc évidemment là ça signifie plus directement le nom du Christ. Donc on voit que les traditions sont différentes pour nommer cet événement. On trouvera aussi des éléments plus culturels, hein, qui rappellent par exemple l'origine du sapin. Moi j'avoue que je ne savais pas forcément son origine, ou alors je l'avais su mais je l'avais oublié. C'est que bien entendu le sapin ne perd pas ses feuilles. Donc là c'est moi qui ai évoqué la Réunion tout à l'heure, c'est assez particulier aussi sous les tropiques de voir que les arbres ne perdent pas leurs feuilles du tout au même moment parce que les saisons sont beaucoup moins nettes. Enfin là, bon, si on revient dans le contexte de l'hémisphère nord, voilà, le sapin quelque part incarne quelque chose de l'éternité divine puisque il perd pas ses feuilles, il n'est pas soumis au temps. Que sur ce sapin, apparemment, on mettait des pommes qui symbolisaient apparemment la pomme de la Genèse. Alors faut rappeler en disant ça que dans le texte biblique, il n'est absolument pas question de pommes. Ça, c'est une erreur qui s'est immiscée dans la tradition chrétienne d'associer le fruit interdit avec la pomme, ce qui n'est pas encore une fois biblique. Enfin, bon, voilà, les traditions reprennent des erreurs et se bâtissent avec. Et donc, le sapin possédait des pommes et possédait manifestement aussi des hosties qui, du coup, représentaient le Christ. On pouvait aussi mettre des bougies pour symboliser la lumière. Voilà, donc on peut comprendre à travers. La mise en place de cet arbre, donc ça daterait, on a des traces en 1521 apparemment, de la présence de ce type de pratique du sapin de Noël, eh bien voilà, qui est l'ancêtre du sapin d'aujourd'hui, avec cette fois-ci des diodes, des machins qui peut-être parfois font de la musique et toutes sortes de boules et de guirlandes. En tout genre, voilà, ça a une origine, là aussi, une origine théologique inspirée des Écritures. Le parcours donne aussi des indications, bien entendu, sur ce qui se passe avant Noël, hein, cette fameuse période de l'Avent avec les couronnes, l'épiphanie aussi, surtout dans la tradition orthodoxe. Donc il y a des éléments, voilà, des éléments de culture qui sont proposés voilà, pour comprendre aussi comment finalement on construit une fête de genre avec un même terreau biblique, puisqu'il s'agit à chaque fois de partir évidemment des récits bibliques de la naissance. Et donc à partir de là, comment dans les cultures se construit cet événement et cette fête. Voilà. Et donc, comme pour tout parcours, ce parcours sur Noël se termine sur des questions qui sont proposées à l'utilisateur, au lecteur, des questions qui ne sont pas des questions forcément de compréhension intellectuelle sur tout le contenu qui a été proposé, mais qui sont plutôt des questions pour s'approprier de manière existentielle, justement ce que la lecture et le travail a permis de comprendre. C'est des questions d'ailleurs qu'on peut envoyer au service Théouvi, hein, quand on est sur le site internet. Les questions qui sont proposées en dessous, il y a systématiquement un lien pour envoyer sous forme de mail des réponses au service. Et donc, quand le service, bah, en l'occurrence, c'est généralement moi, reçoit les réponses qui sont proposées, eh bien, une fois que j'ai un certain nombre de réponses d'un même utilisateur, j'établis un petit bilan qui reprend les questions, les réponses qui sont données, et puis j'adjoins un certain nombre de pistes de réflexion supplémentaires si ça a lieu d'être. Hein, il ne s'agit pas, évidemment, c'est pas un bilan qui donne une note, une appréciation sur la qualité du travail, mais plutôt un bilan qui permet une discussion, un approfondissement sur le travail qui a été proposé. Voilà. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette émission, hein, cette émission de l'Instant TOI. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à réagir bah, sur le site lui-même, sur le site de TOI, TOI.org, en faisant part de vos commentaires, de vos expériences. Et puis voilà, et à bientôt. Au revoir.
Open your eyes and you will see about love the way it should be. Make up your mind and we'll advance humanity.